Galates chapitre 5 et verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. Puisse le Seigneur éclairer nos esprits pour entendre la parole qui vient de Dieu. C'est ma prière. Bonjour à tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais que on contemple un sujet qui vient directement à la suite de ce que nous avions médité la dernière fois. Nous avons vu la substitution, le principe de substitution dans l'activité de l'amour de Dieu pour nous. Et on a trouvé un remède à une condition de notre âme qui était bien représentée par ces symptômes d'un auditeur oublieux de la parole de Dieu et d'une conscience culpabilisée et découragée. Et on a vu que dans la connaissance de Christ comme porteur de notre péché, il y avait là ce qui nous rendrait capables de vivre une vie de sainteté. Et donc, comme une conséquence et une suite logique de cette méditation que nous avions eue la semaine dernière, aujourd'hui, nous voulons examiner à la lumière de la parole de Dieu ce que cela veut dire de marcher selon l'Esprit, de vivre une vie de sainteté. C'est ce qu'on veut voir. Et tout de suite, pour bien introduire notre méditation, j'aimerais que l'on se tourne vers une déclaration de l'esprit de prophétie qui nous vient ici de Conseil à l'Église à la page 175, paragraphes 3 et 4. Conseil à l'Église, page 175, paragraphe 3, où il est écrit ceci. Quand les hommes qui ont formé de mauvaises habitudes et pratiques se soumettent au pouvoir de la vérité divine, la pratique de cette vérité dans le cœur réveille les facultés morales qui apparemment étaient paralysées. L'intelligence de celui qui reçoit la vérité se fortifie et devient plus claire qu'au temps où il ne s'était pas encore attaché au rocher éternel. Même sa santé physique s'améliore parce qu'il réalise qu'il a la sécurité en Christ. Les hommes doivent apprendre que toutes les bénédictions de l'obéissance ne peuvent leur appartenir qu'à condition de recevoir la grâce de Christ. C'est sa grâce qui donne à l'homme le pouvoir d'obéir aux lois de Dieu. C'est elle qui lui permet de cesser d'être l'esclave du mal. C'est le seul pouvoir qui peut le former et le maintenir accroché au bon chemin. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que nous avons lu ? les hommes doivent apprendre que toutes les bénédictions de l'obéissance ne peuvent leur appartenir qu'à condition de recevoir la grâce de Christ. Frères et sœurs, je vais ici susciter notre attention intelligente et fervente parce qu'on a besoin de recevoir ces paroles de l'esprit de prophétie et aussi de la parole de Dieu que nous allons étudier avec intelligence, avec discernement, avec un esprit attentif. Parce qu'autrement, nous n'allons pas comprendre. Et nous allons nous poser la question de d'où se trouve le lien entre toutes ces choses que nous examinons. C'est pour ça que nous avons besoin de recevoir, pour cette étude-là même, la grâce de Christ. Mais pas simplement cela. Ici, nous apprenons que toutes les bénédictions de l'obéissance ne peuvent nous appartenir qu'à condition de recevoir la grâce de Christ. C'est cette grâce, sa grâce, qui donne à l'homme le pouvoir d'obéir aux lois de Dieu. C'est tout le sujet maintenant de notre méditation, c'est qu'est-ce que cela veut dire de marcher selon l'Esprit. Que disait l'apôtre Paul? Marchez selon l'Esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. On veut explorer cela maintenant. Et dans notre exploration, on veut se tourner tout de suite vers le passage d'Éphésiens, chapitre 4. Versets 17 à 19 pour commencer. Ce qu'on veut faire, c'est explorer l'enseignement de la parole de Dieu sur la vie que nous sommes appelés à vivre en Christ et par la puissance de sa grâce. Ce sont des belles expressions, n'est-ce pas? Nous les entendons souvent exprimées, même souvent avec grande ferveur dans les milieux chrétiens, mais ce que l'on veut faire aujourd'hui, frères et sœurs, c'est lire et comprendre pour que l'on puisse faire ce que Dieu nous demande en toute réalité. C'est ça qui nous intéresse tout particulièrement maintenant. Éphésiens chapitre 4 et verset 17. Parce que ce que j'aimerais que l'on fasse ici, c'est que l'on mette les choses en contraste. Pas simplement que l'on dise « voici ce que cela veut dire de marcher selon l'Esprit », mais à l'opposé, à la différence de ce que cela veut dire de ne pas marcher selon l'Esprit. On a besoin de faire cette distinction, parce que souvent, nous voyons aujourd'hui que nous parlons de manière positive ce qui est essentiel, mais si nous n'avons pas définir, tracer les traits de ce qui représente une vie qui n'est pas selon l'esprit, mais qui est selon la chair, eh bien, nous sommes en danger de sombrer dans ces convoitises de la chair dans lesquelles nous sommes appelés à ne pas sombrer. Éphésiens chapitre 4 et verset 17. Donc voilà, maintenant, ce que nous sommes appelés à ne pas faire. Lisez avec moi. Voici donc ce que je dis et que j'atteste de la part du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme le reste des gentils qui suivent la vanité de leur esprit. Ayant leur intelligence obscurcie, étant éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont abandonnés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés avec une ardeur insatiable. Voilà comment se conduisent les gentils. Et voilà comment nous sommes en danger de nous conduire si nous ne marchons pas comme Dieu désire que nous marchions, c'est-à-dire selon l'Esprit. Mais avant que nous allions dans ce que cela veut dire de marcher selon l'Esprit, notez avec moi les éléments de la conduite du païen, de celui qui n'aime pas Dieu et qui ne professe pas aimer Dieu. Qu'est-ce qui est écrit ? Ils suivent la vanité de leur esprit, ayant leur intelligence obscurcie, étant éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous avez plein d'éléments ici qu'il faut que nous notions, dans lesquels on ne veut pas non plus trop s'attarder, mais il faut suffisamment que nous relevions ces aspects pour que on examine ce que moi je fais. Ils marchent dans la vanité de leur esprit, ils ont leur intelligence obscurcie. Pourquoi ? Étant éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Il y a une suite ici, une progression qui fait que ce genre de personnes arrivent à une condition de leur âme où leur intelligence est obscurcie à cause de s'être endurcie dans leur cœur. Ça ne vient pas par magie. Et c'est pour nous que nous examinons cela ici. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont abandonnés à la dissolution. Vous voyez, si vous perdez tout sens d'un espoir, tout sens d'une raison de vivre, qu'est-ce que vous faites ? Ben, vous vous abandonnez aux choses qui ne vous faisiez pas de sens auparavant, mais qui maintenant, vous vous dites, il n'y a plus que ça, je m'abandonne à la dissolution. Vous comprenez ? Parce qu'ils ont perdu tout sentiment. Sentiment d'amour pour Dieu, sentiment d'amour pour l'homme, quoi que ce soit. Tout sentiment s'est passé par la fenêtre. Et après, il y a cette conséquence d'une personne qui s'abandonne à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés. Mais ensuite, l'apôtre nous dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Au moins, si vous l'avez écouté, et si, selon la vérité qui est en Jésus, vous avez été instruit en lui, à vous dépouiller, pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre entendement et à vous revêtir du nouvel homme créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. » Et maintenant, allez avec moi dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, pour commencer. Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. Donc nous aussi, nous étions là-dedans. Si nous en sommes arrivés à recevoir le Seigneur Jésus, à exercer la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes venus de cela. Vous aussi, vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de la grande charité dont il nous a aimés, du grand amour dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus à la vie ensemble en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc vous voyez maintenant le même principe vis-à-vis de ces détails de notre conduite précédente. Qu'est-ce que vous avez relevé? Ici, c'est très précis. Notez la vie que nous menions auparavant. Par quoi est-ce qu'elle est décrite ici? Accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Donc, c'est-à-dire que nous n'avions pas de difficultés, nous n'avions pas de contradictions intérieures. Parce que nous accomplissions les désirs de la chair et de nos pensées, ces deux choses étaient en parfaite harmonie en faveur du péché. Mais après, il nous explique que si nous avons reçu par la foi vivante le Seigneur Jésus-Christ et à travers la repentance, Dieu nous a ressuscités, il nous a rendus à la vie alors que nous étions morts dans nos fautes, il nous a rendus à la vie ensemble en Christ par la grâce. Parce que nous avons reçu l'Esprit. Et tout ce que cela implique dans la conversion. Mais maintenant, vous remarquerez, comme on l'a vu dans Éphésiens chapitre 4, nous revenons. Maintenant, nous sommes appelés à être renouvelés dans l'esprit de notre entendement. La chair, elle n'a pas changé, mais maintenant, par notre réception, par la foi du Seigneur Jésus-Christ, Dieu implante en nous une inimitié contre la chair et ses œuvres. Pour nous permettre de faire exactement ce qui est écrit ici. Que nous soyons renouvelés dans l'esprit de notre entendement. Donc, on veut maintenant explorer. Et on va pour cela dans notre lecture biblique. Dans Galates, chapitre 5, et verset 17. Et verset 16, plutôt. Galates, chapitre 5, et verset 16. Où nous avons notre lecture biblique, où l'apôtre nous dit « Marchez selon l'esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. » Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez que si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, notre nature, la chair, a des désirs contraires à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit en nous, que nous recevons par la foi et la soumission, a des désirs, ou plutôt a des motivations, des aspirations contraires à la chair. Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Autrement, il dit, ce qui est écrit aussi dans Romains chapitre 7, que nous réalisons cette loi dans nos membres qui nous fait faire des choses que nous ne voulons pas faire selon l'Esprit. Mais ici, nous sommes appelés à plus que cela. Nous sommes appelés à marcher selon l'Esprit pour ne point accomplir les désirs de la chair. Et c'est pour ça que je trouve la traduction Martin tout particulièrement intéressante. Elle est similaire à ce que nous trouvons dans la Bible King James où nous lisons « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point les convoitises de la chair. » Donc si je marche selon l'Esprit, frères et sœurs, la conséquence logique, c'est que je n'accomplirai point les désirs de la chair. Si j'ai un bon discernement, comme nous cherchons ici à l'obtenir, de ce que cela veut dire de marcher selon l'Esprit, et de ce que cela veut dire de satisfaire les désirs et les convoitises de la chair, et que je choisis de marcher selon l'Esprit, la conclusion est évidente. J'irai dans une direction et je n'irai pas dans l'autre. Mais ça ne suffit pas ici. Ça ne suffit pas parce que aujourd'hui même, nous explorons ces choses et ces choses sont explorées, ces choses sont expliquées. Mais pourtant, nous voyons des hommes qui, quand bien même ils annoncent une profession intense pour Jésus, marche selon la chair. Mais ils disent qu'ils marchent selon l'Esprit. Mais étant donné que nous ne recevons pas une explication claire, droit, venant droit de la parole de Dieu pour notre application personnelle, eh bien nous nous retrouvons à faire les choses que nous déclarons ne pas faire, ou que nous déclarons ne pas vouloir faire. C'est pour cela que c'est indispensable pour nous de voir que dit l'Éternel. Il nous faut un « ainsi dit l'Éternel » auquel nous pouvons nous accrocher, pas un « ainsi dit mon imagination », pas un « ainsi dit ma supposition ». Vous comprenez? Et on continue, toujours dans Galates chapitre 5, verset 19. Maintenant, l'apôtre Paul, il n'y va pas par quatre chemins, il fait la liste des œuvres de la chair. Comment nous pouvons distinguer si ce que je fais c'est de la chair ou si ce que je fais c'est de l'esprit? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches, les choses semblables. La liste, elle est trop longue. L'apôtre, il dit, il faut que vous étudiez votre bon raisonnement, là, parce que je peux pas, il y a trop de choses, quoi. Mais, il a quand même tracé une liste exhaustive qui peut comprendre les autres petites choses semblables. Je vous dis d'avance, continue-t-il, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc c'est clair. Ceux qui font ces choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais, au verset 22, on continue, « Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est point contre ces choses. » Et ensuite, verset 24, « Or ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne recherchons point la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. » Est-ce que vous avez noté ici? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Marcher selon l'Esprit, c'est crucifier la chair avec ses passions et ses convoitises. Donc, si je veux marcher selon l'Esprit, qu'est-ce que je vais avoir à faire maintenant? Si je veux satisfaire, si je veux être approuvé de Dieu, qu'est-ce qu'il va me falloir faire? Faire exactement ce qui est écrit ici. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Je veux le sens de mon appartenance à Jésus-Christ. Je veux le sens d'être reçu par lui. Et il me reçoit si je viens à lui par la foi et lui demande pardon pour mes péchés. Mais je veux avoir le sens, le sentiment de lui appartenir de jour en jour et d'heure en heure et de moment en moment. Et comment puis-je avoir cela? En crucifiant la chair avec ses passions et ses convoitises. Et vous voyez, il n'y a pas de miracle. Aujourd'hui, nous voulons un miracle. Nous disons, le Seigneur Jésus te bénit, la grâce de Dieu. Et après, lorsqu'il nous faudrait entendre un « ainsi dit l'Éternel » vis-à-vis de notre devoir de renoncer à l'impiété, de renoncer aux convoitises de la chair, de crucifier la chair, là, c'est le silence. C'est pour ça que nous méditons aujourd'hui la parole de Dieu pour réfléchir attentivement à qu'est-ce que Dieu veut de moi. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Vous vous souvenez qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit lorsque le Seigneur Jésus lui est apparu sur le chemin vers Damas? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Maintenant je sais, c'est toi, Jésus, que je persécutais, et donc je me tourne vers toi, mais maintenant que veux-tu que je fasse? Et ici Dieu, lorsque nous tendons l'oreille et que nous demandons, Seigneur, donc tu me reçois, tu m'aimes, tu payes pour moi comme ça, tu es mon substitut, mon garant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, marche selon l'Esprit. Et qu'est-ce qu'il dit de plus? Tu m'appartiens? Alors, tu as crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Et le diable va s'assurer de bien pointer le doigt, de bien vous piquer sur vos passions et vos convoitises. Mais non, il faut crucifier la chair. L'apôtre Paul disait, je meurs chaque jour. Il disait pas je meurs une fois l'an, une fois quand ça m'arrange. Non, chaque jour, quand j'ai envie, quand j'ai pas envie, il faut que je meure parce que je veux appartenir à Jésus. Marcher selon l'Esprit. On continue. On lit cette déclaration, encore une fois, de conseil à l'Église, à la page 109 et au paragraphe 1, où il est écrit ceci. Où l'esprit de prophétie vient vraiment placer des expressions finales sur le sens de ces mots tels la chair, elle dit. Les passions inférieures ont leur siège dans le corps et l'utilisent. Les mots chair, charnel ou convoitise charnelle concernent la nature inférieure et corrompue. La chair ne peut pas d'elle-même agir contre la volonté de Dieu. Donc, nous avons cette chair, mais la chair en elle-même, elle ne fera rien. Donc, écoutez ce qui suit après. La chair ne peut pas d'elle-même agir contre la volonté de Dieu. Nous sommes exhortés à crucifier la chair avec ses passions et ses convoitises. Comment y parviendrons-nous? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? En mortifiant notre corps? En nous flagellant? Est-ce que c'est comme cela que nous crucifierons la chair et avec ses passions et ses convoitises? En nous faisant du mal physiquement? Non! Mais en neutralisant la tentation au péché. Les pensées corrompues doivent être expulsées. Toute pensée doit être amenée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Toutes les propensions animales doivent être assujetties aux facultés supérieures de l'âme. L'amour de Dieu doit régner en maître. Christ doit occuper le trône en souverain absolu. Nos corps doivent être considérés comme sa propriété qu'il a rachetée. Les membres du corps doivent devenir des instruments de justice. Elle est directement en train de faire allusion à ce passage de Romains, je crois que c'est Romains chapitre 6. Nous étions autrefois, nous utilisions nos corps comme des instruments de quoi? De péché, d'iniquité. Nous étions les serviteurs du péché, comme l'apôtre Paul nous dit, les esclaves. Nous faisions ce que le péché demande. Comme ces gentils dont nous avions lu la description de leur conduite. Et l'apôtre nous dit, ça c'était votre conduite précédente. Vous devez maintenant vous dépouiller de cette conduite précédente, de marcher dans la vanité de votre esprit, de vous abandonner à toute dissolution. Marchez selon l'Esprit de Dieu, pas selon la chair. Les membres du corps doivent devenir des instruments de justice. C'est, vous voyez, frères et sœurs, il y a quelque chose de vraiment profond là-dedans, parce que, si vous allez brièvement avec moi, je voulais qu'on lise ça avant, plutôt après, mais on va lire maintenant. On va juste nous y référer brièvement et voir ce qui est écrit. Dans Romains chapitre 6, verset 19, il dit « Je parle suivant l'usage des hommes. » à cause de l'infirmité de votre chair. En effet, de même que vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'injustice, pour l'iniquité, aussi livrez-les maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit retiriez-vous donc alors des choses dont vous avez honte présentement? Car leur fin est la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et esclaves de Dieu, vous en retirez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Hein? Maintenant, nous avons honte, nous aurions honte de ces choses que nous faisions avant. Et donc, il dit, vous avez honte de ces choses maintenant? Eh bien, dans ce cas, de la même manière que vous étiez esclave du péché et que vous étiez libre à l'égard de la justice, maintenant, soyez les esclaves de la justice pour la sainteté et libre à l'égard du péché. Libre. On va y revenir. C'était juste une parenthèse pour ne pas abandonner cette pensée que Dieu nous appelle à offrir nos corps comme des offrandes acceptables à lui, sur l'autel de notre adoration à Dieu. Et je continue maintenant, encore une fois, dans une déclaration de l'esprit de prophétie qui se trouve dans le livre en anglais « Sermons and Talks », volume 1, à la page 271 et au paragraphe 2, où il est écrit ceci. Nombreux sont ceux qui se trompent eux-mêmes parce que, tout en adhérant à la vérité, ils ne sont pas sanctifiés par la vérité. Pour avoir une juste expérience religieuse, il est essentiel que nous ayons non seulement une conception intelligente de la théorie de la vérité, mais un cœur et un esprit formés, et des habitudes en harmonie avec la volonté explicite de Dieu. La parole et les exigences de Dieu doivent être étudiées, car si nous mêlons à notre expérience des principes incorrects, nous nourrirons de fausses idées sur ce qui constitue un chrétien et nous ne pourrons obéir à la voix de Dieu. Nous ne pouvons pas discerner spirituellement le caractère de Dieu, ni accepter Jésus-Christ par la foi, à moins que notre vie et notre caractère soient marqués par la pureté. À moins que nous ne détruisions les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et que nous amenions toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce que nous avons lu? On ne peut pas discerner spirituellement le caractère de Dieu qui est amour, ni accepter Jésus-Christ par la foi en réalité, à moins que notre vie et notre caractère soient marqués par la pureté. C'est très important ça. J'aimerais qu'on s'attarde vraiment sur ça. Si nous ne faisons pas l'effort par la grâce de Dieu, rappelez-vous, il s'agit ici de marcher selon l'Esprit. On ne parle pas ici de faire quelque chose de nos propres efforts, de manière indépendante de la puissance de Dieu, mais on parle ici de ce que nous sommes appelés à faire conjointement en participation avec l'effort de Dieu lui-même. Qu'est-ce que c'est? On ne peut pas discerner spirituellement le caractère de Dieu ni accepter Jésus-Christ par la foi à moins que notre vie et notre caractère soient marqués par la pureté. À moins que nous ne détruisions les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et que nous amenions toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que si je veux vraiment voir Dieu et connaître Dieu, comme l'apôtre Jean le disait dans son épître, pour ne pas pécher, si je veux le voir comme ça, le connaître comme cela, de manière constante et permanente, ça ne sera pas possible si je ne mène pas une vie de pureté et que je ne m'efforce pas de crucifier la chair avec ses passions et ses convoitises si je ne détruis pas les raisonnements dans mon esprit qui s'élèvent contre ma connaissance de Dieu. Ça veut dire que vous avez des raisonnements de la chair qui viennent comme ça et qui disent « Oh, moi je veux prendre la place, maintenant tu vas penser à moi. » Tu vas penser à moi, tu vas te concentrer sur moi, tu vas placer tes affections sur moi. Nous sommes appelés à détruire ces raisonnements. Ou comme c'est écrit en anglais, à abattre tous ces raisonnements, à les renverser. À les renverser comment? À amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc si c'est une pensée qui ne veut pas être captive, eh ben tu pars. Vous comprenez? Mais si c'est une pensée qui fait partie de l'esprit, eh bien, tout va bien. Elle sera dans le contexte de l'amour de Dieu dans mon âme. Mais si c'est une pensée qui n'est pas de l'esprit, je fais quoi? Je la renverse. Vous voyez? Mais comment je fais cela? Parce que je prends part à quelque chose qui a déjà été fait. C'est ça, c'est très très important que nous saisissions vraiment qu'est-ce qui se passe lorsque nous nous engageons sur cette voie où nous nous efforçons de renverser ces raisonnements, où nous crucifions la chair avec ses passions et ses convoitises. D'où cela vient et où cela se passe et avec qui? Avec qui? J'aimerais lire aussi cette citation dans les commentaires bibliques d'Ellen G. White à la page 1525. Tout n'est pas rose dans la vie du chrétien. De durs conflits se présentent. Des tentations sévères l'assaillent. La chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Plus nous approchons la fin de l'histoire de cette terre, plus les attaques de l'ennemi seront trompeuses et insidieuses. Ces attaques se feront plus violentes et plus fréquentes. Ceux qui s'opposent à la lumière et à la vérité deviendront plus endurcis et insensibles et plus implacables contre ceux qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements. Donc, est-ce que cela va s'adoucir un peu? Est-ce que cela va s'amoindrir? Est-ce que cela va se calmer? Non. ça ne va pas se calmer. Ça ne va pas se calmer, frères et sœurs. L'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus nous dit, plus nous approchons la fin de l'histoire de cette terre, plus les attaques de l'ennemi seront trompeuses et plus elles seront insidieuses. Ces attaques se feront plus violentes et plus fréquentes. Et si ces attaques ne se font pas par une persécution physique et violente dans le sens commun, comment se feront-elles? Elles se feront par d'autres moyens. Il a d'autres moyens. Et un de ces moyens, frères et sœurs, ce sont les anciennes habitudes ou les anciennes connaissances, ou les présentes connaissances si elles ne sont pas devenues anciennes, ou les membres de famille. Et toutes ces choses sont tout à fait liées à notre appel à marcher selon l'esprit et à crucifier la chair avec ses passions et ses convoitises. Tout n'est pas rose dans la vie du chrétien. Tout n'est pas rose, mais nous pouvons marcher selon l'esprit. Et maintenant, nous nous tournons vers ce passage de Romains chapitre 6, versets 3 et 4 pour commencer. Et je trouve ça très intéressant parce que ici vous avez l'apôtre Paul qui parle à des chrétiens. Ce ne sont pas de nouveaux venus, ce n'est pas de chrétiens nouveaux venus tout à fait. Ils ont une certaine expérience, mais il leur parle de quelque chose qui est passé. Et regardez ce qu'il dit. Romains chapitre 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Donc, quelle est la comparaison qui nous est présentée vis-à-vis de, et en représentation de cette vie nouvelle que nous sommes appelés à mener lorsque l'apôtre disait que nous devions nous dépouiller de notre conduite précédente et d'être renouvelé dans l'esprit de notre entendement? Quelle est cette représentation qui nous est faite ici? Le baptême. Le baptême. Et le baptême, il nous présente ici le baptême à nos esprits intelligents. Il dit, de la même manière que Jésus a été enseveli dans la tombe, et qu'il est mort, et qu'il a été ressuscité par la gloire du Père. De même, nous devrions nous aussi marcher dans une vie nouvelle. Parce que nous avons professé, nous sommes engagés avec lui dans sa mort, par le baptême. Et donc, cet engagement, maintenant, nous y retournons. Nous l'avons peut-être oublié. Nous y retournons par la foi et nous disons, je me suis engagé. Et il est mort comme cela et je suis mort avec lui dans le symbole. Mais le symbole est un symbole pour m'aider à faire exactement ce que Jésus a fait, c'est-à-dire mourir, crucifié, la chair. Et verset 5 à 7. Car si nous avons été faits une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Vous voyez ici, le Seigneur essaie de nous faire comprendre de quoi il s'agit vraiment. Qu'est-ce qui est contenu dans cette activité que nous lisons ici. Si nous nous sommes conformés à sa mort par le baptême, eh bien, dans lui, cette chose qu'il a faite en s'offrant en sacrifice et en mourant, en étant enseveli, à travers cela, notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Donc il est mort pour, comme c'est écrit autre part, je crois que c'est dans Hébreux, il est mort pour détruire celui. Allons-y brièvement là, j'ai pas envie de dire de bêtises. Dans Hébreux chapitre 2 et verset 14. Puisse donc que les enfants participent de la chair et du sang, il en a aussi de même participé, afin que par la mort, il détruisit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Donc il a fait cela pour nous délivrer qui étions assujettis à la servitude et qui étions quoi aussi ? Esclaves du péché. Donc en lui, nous savons que notre vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et donc il continue au verset 11, « Vous aussi donc, considérez-vous comme mort au péché, mais vivant à Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc c'est là que c'est important que vraiment on puisse cimenter la compréhension personnelle de ces choses ici. Lorsque le péché va revenir à vous et moi, à la lumière de cette méditation essentielle. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il dit, considérez-vous comme mort au péché. Mort pourquoi? Parce que j'ai été baptisé avec lui dans sa mort. Et que, à travers cette transaction, ce qu'il a fait pour moi est mise en application et mon vieil homme a été crucifié avec lui pour que le corps du péché soit détruit et que je ne sois plus asservi au péché. Parce que si je suis mort avec lui, qu'est-ce qui est écrit? Celui qui est mort est affranchi du péché. Affranchi. Donc si vraiment je me considère comme mort avec lui, pas mort tout seul, mort en lui, parce qu'il a pris mon péché en son corps, Il a pris ma nature avec lui et qu'il l'a amené dans la tombe. Eh bien, si je me considère comme mort au péché, je suis affranchi du péché. Donc il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Qui règne maintenant? Qui règne? Nous avons lu juste avant, il faut que, j'y reviens, c'était dans Conseil à l'Église, page 109 et paragraphe 1, où nous lisions « L'amour de Dieu doit régner en maître. Christ doit occuper le trône en souverain absolu. » Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Qui règne maintenant? Qui règne dans la citadelle de mon âme? Où les facultés supérieures de l'âme résident. Qui règne là? Jésus-Christ. C'est là. C'est lui qui règne, non plus le péché. Pourquoi il règne là? Parce que je marche selon l'esprit. Et donc je renverse tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. C'est une connaissance intime et personnelle. Et ces raisonnements cherchent à renverser ma connaissance de Dieu, à l'amoindrir, à la miner. Mais non, si je marche selon l'esprit, je me considère comme mort au péché. Mais quoi? Mais vivant à Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 13, « Ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme de mort étant devenu vivant et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. » Car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Nous ne sommes pas sous la condamnation de la loi, mais nous sommes sous la grâce, c'est-à-dire que nous marchons selon l'esprit et nous avons le sentiment d'être approuvés de Dieu parce que nous pratiquons les œuvres que Jésus lui-même a pratiquées. Et ça, ça nous amène tout de suite vers le passage de Romains par lequel nous allons terminer. Romains chapitre 8 et verset 1, où il est écrit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait en voyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon l'esprit, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, lorsque nous marchons selon l'esprit, en crucifiant la chair avec ses passions et ses convoitises, nous recevons en nous-mêmes, par cette participation active, les mérites et aussi les vertus de la vie pure et sainte du Seigneur Jésus qu'il a lui-même vécu dans notre chair de péché. De telle sorte que ce qui était impossible à la loi, parce que nous ne pouvions pas, à cause de notre chair affaiblie de péché, Dieu l'a fait en envoyant Jésus dans notre chair de péché, et il a condamné le péché dans la chair, rendant possible le fait que nous puissions pratiquer et vivre la loi de Dieu, les 10 commandements. Et verset 5, « Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » C'est la vie et la paix que l'on trouve lorsque on fait l'expérience de cet affranchissement de la loi du péché et de la mort. Donc voilà, frères et sœurs, c'était une petite méditation pour examiner ce sujet important auquel il faut que on s'adonne avec une dévotion renouvelée. Et donc, maintenant, à la lumière de ça, nous pouvons réfléchir à ce que nous sommes tentés de faire, réfléchir aux choses que nous avions eu l'habitude de faire, et maintenant, considérer que ce n'est pas ces choses-là que nous voulons faire. Parce que nous avons honte de ces choses, nous ne voulons pas faire ces choses dont nous avons honte, mais nous voulons avoir le sentiment d'appartenir à Christ. Et pour ce faire, pour avoir le sentiment d'adoption constant, pas simplement de la justification, mais dans une marche réelle et vibrante avec Dieu, nous allons crucifier la chair avec ses passions et ses convoitises, et nous en retirerons le fruit de l'esprit, la joie, la paix, la patience, la douceur et l'assurance. Parce que l'affection de l'esprit, si je marche selon l'esprit et que je ne satisfais pas les désirs de la chair, eh bien, l'affection de l'esprit, ce sera la vie et la paix. Puissions-nous avoir vraiment cela dans notre expérience et marcher avec Jésus selon l'Esprit. C'est ma prière. Amen.